Analysons maintenant l'action 4, évaluer. Pour moi, l'évaluation est un acte majeur de management. Parce que c'est un acte qui, lorsqu'il est fait de façon satisfaisante, permet au collaborateur de se positionner de façon précise par rapport à son manager. C'est-à-dire qu'il saura précisément ce que son manager valide et apprécie dans son fonctionnement, quels sont les points sur lesquels le collaborateur doit se développer et, très important, les moyens à mettre en œuvre pour réussir ce développement. Cela répond à un besoin essentiel qui est le besoin de sécurité psychologique. Un autre élément, c'est que une évaluation bien faite, elle est précise et équitable. Et donc, cela permet de satisfaire un deuxième besoin fondamental de n'importe quel collaborateur, qui est le besoin d'équité. Et un dernier élément, c'est que la démarche d'évaluation doit permettre au collaborateur d'être l'acteur principal de sa propre évaluation et l'acteur principal de son évolution. Alors maintenant, je vous propose de vous présenter une démarche permettant de tirer de votre démarche d'évaluation tous les bénéfices que je viens de citer. La première étape, c'est la préparation de l'évaluation. Donc imaginons la situation où vous allez recevoir en entretien d'évaluation l'un de vos collaborateurs. En termes de préparation, la première chose que je vous suggère de faire, c'est de faire l'analyse du fonctionnement de votre collaborateur. Et de faire cette analyse selon les points suivants. D'abord, quels sont ses points positifs? Donc, quels sont les éléments de son fonctionnement que vous validez comme étant adaptés? Et sur chacun des points positifs, je vous suggère de trouver les éléments d'exemple vous permettant de dire pour quelles raisons vous affirmez que ce point positif est maîtrisé par votre collaborateur. Donc, c'est des éléments de la réalité qui vous permettent de dire pourquoi vous dites ça. Donc, des éléments précis appuyés sur des réalités observables. Deuxième élément d'analyse, quels sont les progrès que vous avez constatés depuis votre dernier entretien? Et là, de la même façon, chacun des éléments de progrès que vous pouvez pointer, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que ce progrès est réel? Troisième élément, quels sont de votre point de vue les points que votre collaborateur a à développer? Puis, quatrième élément, parmi ces points à développer, quelles sont, à votre avis, les priorités? Je vous suggère de vous limiter à 3 priorités. Parce que si vous avez plus que 3 priorités, c'est que ce ne sont pas des priorités. Enfin, il y a certains éléments à l'intérieur qui ne sont pas des priorités. Vous pouvez passer maintenant à l'étape 2, qui est l'information des collaborateurs. Donc, il s'agit d'abord d'informer vos collaborateurs concernés en leur indiquant que vous mettez en place une démarche d'entretien individuel. Deuxième information, il s'agit de leur présenter de façon précise le fonctionnement de la démarche d'évaluation, qu'on verra après. Et puis, il s'agit de demander à chacun de préparer l'entretien d'évaluation. Et la préparation que vous avez à lui proposer reprend les éléments de structure que j'ai présentés au préalable, c'est-à-dire quelle est l'analyse qu'il fait de ses points forts, des progrès, des points qu'il a à développer et des priorités. Nous pouvons passer maintenant à l'entretien lui-même. De mon point de vue, il y a 2 éléments à évaluer. Il y a le collaborateur, d'une part, et d'autre part, la collaboration, la coopération. Alors, commençons d'abord par l'évaluation du collaborateur. Je vous suggère de dérouler la démarche en respectant l'ordre suivant. D'abord, commencez par l'auto-évaluation. C'est-à-dire, vous donnez la parole à votre collaborateur et vous lui demandez de présenter la vision qu'il a dans l'ordre et pour chacune des tâches qui lui sont confiées de ses points positifs, ses progrès, les points qu'il considère comme étant à développer et ceux qu'il considère comme étant des priorités avec la règle toujours 3 maximum. Alors, quels sont les avantages de commencer par une auto-évaluation? D'abord, votre collaborateur est incité à réfléchir, à analyser. Donc, c'est la meilleure façon que vous l'ayez de développer la conscience qu'il a de ce qu'il fait et de comment il le fait. Et de lui donner l'habitude de régulièrement s'arrêter pour analyser son fonctionnement, qui est la seule façon de progresser de façon autonome. Deuxième avantage, il est en mesure de donner son avis sans être, entre guillemets, contaminé par le vôtre. Si vous commencez à donner votre avis à vous, le risque qu'il est plutôt soumis, c'est qu'il l'accepte tel quel. Et s'il est un peu en rebelle avec vous, comme par hasard, il ne sera pas d'accord. Un troisième avantage, ça vous permet de vérifier si votre collaborateur a une vision cohérente de la réalité, ou est-ce que sur certains éléments, il ne se rend pas compte. Et le fait que vous vous rendiez compte qu'il ne se rend pas compte, que par exemple, l'accueil qu'il fait du public, c'est un accueil qui mérite vraiment d'être amélioré, eh bien, ça va vous permettre après de pouvoir intervenir d'une façon qu'on verra ultérieurement. Et maintenant, je voudrais pointer quels sont les avantages de commencer par les points positifs. Il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est un avantage d'ordre technique. Le fait que votre collaborateur liste les éléments de fonctionnement positifs va lui permettre de fixer chacun de ses comportements qui sont adaptés et qui sont conformes à votre demande. Donc il aura d'autant plus de probabilités de les reproduire. Le deuxième avantage est un avantage psychologique. C'est pour lui, à l'évidence, un signe de reconnaissance positif. Et c'est un signe de reconnaissance qui est légitime et équitable puisqu'il est appuyé sur une réalité positive. Et d'autre part, c'est un encouragement à continuer son évolution. Et c'est une très importante source d'énergie. Et elle est gratuite. Lorsque le collaborateur a terminé son auto-évaluation, c'est au tour du manager. Donc, le manager doit donner sa vision de l'évaluation du collaborateur. Et il doit le faire en gardant la même structure, c'est-à-dire dans le même ordre. Et impérativement commencer par les points positifs et dérouler le processus tel que je l'ai indiqué précédemment. Puis vient la troisième phase, qui est la phase d'échange et d'ajustement. Il est possible que le collaborateur et son supérieur aient une vision quasi identique de l'évaluation du collaborateur, auquel cas il n'y a pas d'ajustement nécessaire particulier. Il est possible aussi que sur tel point qu'il soit positif à développer ou priorité, il y ait un écart. Et là, il y a nécessité d'une discussion, d'un entretien, permettant de s'ajuster. Sachant que s'il y a des accords au final, c'est la voix du leader qui est prédominante. Une fois que cette étape d'échange est terminée, nous en venons à la quatrième étape qui est la définition des modalités d'action. Donc nous en sommes dans la situation où chacune des priorités a été définie. Maintenant, la question c'est qu'est-ce que nous allons mettre en œuvre ? Quelle démarche va être mise en œuvre pour atteindre cet objectif qui est lié aux priorités ? Par exemple, augmenter la capacité du collaborateur à gérer les documents, si l'on a constaté qu'il a vraiment une difficulté majeure et que régulièrement il perd des documents, il passe un temps trop important à les rechercher, et donc là il a un point d'amélioration. Donc on a défini le point d'amélioration, ça devient un objectif. Maintenant, la démarche suivante, c'est réfléchir aux modalités concrètes pour permettre au collaborateur d'atteindre cet objectif. Je voudrais insister sur cette étape qui souvent n'est pas faite ou est faite de façon extrêmement sommaire. Et souvent, les managers, une fois que les objectifs ont été définis, les objectifs de progrès, s'en tiennent là. Et là, encore une fois, nous voyons apparaître un mode de management qui est le IAKA. Ma suggestion pour construire ce plan d'action. Ce que je vous suggère, c'est de proposer à votre collaborateur de réfléchir aux moyens qui lui paraîtraient adaptés. Et de vous interdire vous-même de trouver la solution. C'est encore une fois une façon de pousser votre collaborateur à être le premier acteur de son propre management et le premier acteur de sa propre évolution. Donc il s'agit de lui demander de préparer un plan d'action permettant d'atteindre l'objectif et qu'il vous présentera ultérieurement le lendemain ou une semaine après. Alors maintenant, lorsque l'entretien se déroule à nouveau, c'est-à-dire que la personne vient vous présenter les options qui lui paraissent pertinentes pour développer la compétence nécessaire, il y a deux options possibles. Soit votre collaborateur vous fait une proposition qui globalement vous paraît satisfaisante et il y a éventuellement simplement tel ou tel point que vous souhaitez ajuster. Là, vous êtes dans une négociation. On est à nouveau dans la relation client-fournisseur. Et donc vous, en tant que client, vous allez négocier et vous allez éventuellement arbitrer s'il y a tel ou tel point de ces propositions qui vous paraissent inadaptés. Deuxième cas de figure, votre collaborateur ne vous propose pas de plan d'action ou un plan d'action qui vous paraît réellement incohérent. Là, ça veut dire que vous touchez à une de ses limites de compétences techniques. Il n'est pas parvenu à trouver des options. Et là, vous avez à vous adapter en termes de management, donc vous avez à changer de style de management. Et le style de management que vous avez à lui appliquer, c'est le style explicatif, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre la relève. Et vous allez lui expliquer comment faire. Alors quand je dis vous, ça peut être vous personnellement. Vous pouvez aussi vous appuyer sur une expertise externe, par exemple un consultant ou un service fonctionnel de la structure qui a une expertise particulière, ça peut être par exemple le service formation, sur comment accompagner telle personne à développer telle qualité, telle capacité ou tel comportement. Puis nous en venons à l'étape suivante qui est l'engagement de la part du collaborateur. Donc là nous sommes dans une situation où l'évaluation est faite, les priorités ont été définies, et les modalités d'action pour atteindre les objectifs qui sont liés à ces priorités ont aussi été définies. Donc il s'agit maintenant que le collaborateur prenne à la fois les trois engagements dont je parlais précédemment, c'est-à-dire l'engagement de respecter les objectifs spécifiques, l'engagement de respecter les modalités d'action prévues, et le troisième engagement qui est de respecter la règle de réactivité. Concernant l'évaluation du collaborateur, il n'y a plus qu'une étape. C'est la définition des modalités de suivi. Vous devez définir les modalités que vous allez mettre ensemble en œuvre pour suivre l'évolution de votre collaborateur et suivre le respect des engagements. Et je vais terminer par un élément qui me paraît essentiel. Si vous constatez que l'un de ces engagements n'est pas respecté par la personne, cette personne doit être sanctionnée. Voyons maintenant le deuxième élément à évaluer, qui est évaluer la collaboration. Donc nous avons évalué déjà le collaborateur, maintenant il nous reste à évaluer la collaboration. À mon avis, cette évaluation concerne au moins deux zones. La première zone, c'est la collaboration avec son supérieur hiérarchique, vous en l'occurrence. Il s'agit donc d'analyser le fonctionnement de la collaboration entre votre collaborateur et vous-même. Donc on évalue la qualité de la relation là. Et il y a une deuxième zone que vous pouvez aussi évaluer, c'est la collaboration avec chacun des autres membres de l'équipe. Vous pouvez même avoir une troisième zone qui est l'évaluation de la collaboration entre deux organisations. Par exemple, si votre collaborateur est chef de service, c'est entre son service et un autre service. Ou entre son service et l'extérieur. Alors concernant la démarche d'évaluation, je vous propose de reprendre exactement la démarche d'évaluation du collaborateur que vous appliquez à la démarche d'évaluation de la collaboration. Donc, de commencer par une auto-évaluation de la part de votre collaborateur avec toujours les mêmes points, points positifs, les améliorations, les points à développer, les priorités. Donc c'est, par exemple, dans la relation qu'il a avec vous, quels sont de son point de vue les points positifs? Quels sont de son point de vue les améliorations qu'il a pu constater dans votre façon d'être en relation ensemble depuis la dernière fois que vous avez travaillé sur ce point? Et puis qu'est-ce qu'il reste à son avis à développer? Et parmi ces points à développer, quelles seraient pour lui les priorités? Puis dans un deuxième temps, c'est vous en tant que manager qui donnez votre point de vue en utilisant le même ordre. Et après, vous proposez à votre collaborateur de réfléchir à des options qu'il pourrait vous proposer pour améliorer les points que vous avez ensemble définis comme étant des priorités à améliorer. Puis vous négociez ensemble les options qu'il vous propose et nous en venons à l'étape des engagements. Un point quand même de vigilance, il est fort probable que certains engagements doivent aussi être pris par vous en tant que leader. Donc il est souhaitable que vous respectiez vos engagements, et notamment l'engagement de la règle de réactivité.